VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 en universel du mercredi 31 octobre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Le Cameroun accuse des terroristes d'être les auteurs de l'assassinat d'un missionnaire américain en zone anglophone. Retour à Juba du chef rebelle Riek Machar après 2 ans d'absence, c'est pour célébrer la signature d'un accord de paix.
Ils ont juré de faire tout leur possible pour que ça réussisse cette fois et qu'on permette aux gens de vivre en paix.
Une nouvelle caravane de migrants est partie du Salvador en direction des États-Unis. Et au Pakistan, colère des fondamentalistes après l'acquittement d'une femme chrétienne accusée de blasphème. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le missionnaire américain tué par balle hier en zone anglophone du Cameroun a été la cible de terroristes lors d'une tentative d'attaque contre une brigade de gendarmerie et une zone universitaire, ce qu'a affirmé ce mercredi le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assoumo. Le point avec Nanis Talani.
Charles Truman Wesco, missionnaire américain de 44 ans, se trouvait à bord de son véhicule en compagnie de son épouse, de son fils et de son chauffeur lorsqu'il a essuyé hier matin un tir en provenance des terroristes embusqués, a écrit M. Betty Assoumo dans un communiqué lu à la radio d'État. Touché à la tempe, l'Américain a succombé à ses blessures à l'hôpital de Mamenda. M. Betty Assoumo assure que 4 des terroristes présumés soupçonnés du meurtre ont été tués et plusieurs autres blessés pendant l'intervention des forces de défense et de sécurité. 4 fusils de calibre 12 ont été récupérés. Un étudiant et un militaire ont également été blessés lors des échanges de tirs. Le ministre de la Défense a aussi mis en garde les étrangers allant dans les zones de conflit. Il leur a recommandé d'avertir les autorités afin de bénéficier d'une sécurité maximale. Les militants des séparatistes ont toutefois réfuté les affirmations du ministre, accusant l'armée camerounaise de la mort du missionnaire américain.
Une télévision privée du Cameroun qui avait annoncé la mort du président gabonais Ali Bongo a été suspendue pour 6 mois au Gabon par la haute autorité de la communication. Réunie hier à Libreville, la haute autorité de la communication a demandé le retrait pour 6 mois de la télévision privée camerounaise Vision 4, des bouquets diffusés au Gabon par les principaux diffuseurs, dont Canal+. Le président gabonais, âgé de 59 ans, a été hospitalisé le 24 octobre à Riyad à la suite d'un malaise, selon le porte-parole de la présidence à Libreville. En Guinée, les survivants d'un massacre qui a fait 6 morts en 2012 ont porté plainte dans leur pays contre une société minière qu'elles accusent de complicité, puis devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen. Le 4 août 2012, à Zogota, dans le sud-est du pays, les forces de sécurité et de défense guinéennes avaient tiré au hasard sur des villageois qui protestaient depuis plusieurs jours contre la politique de recrutement de la société minière Vale BSGR, tuant 6 habitants, en blessant plusieurs autres, incendiant des habitations et arrêtant et torturant plusieurs autres personnes, a précisé l'ONG NDT dans un communiqué. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme au sujet de la situation des Congolais expulsés d'Angola. Elles estiment que ces personnes installées dans une région du centre de la RDC ont urgemment besoin d'aide. Nombre de personnes expulsées ont été forcées de fuir, ont subi ou bien ont été témoins de violences graves en Angola, affirme Charles Wentere, directeur pays d'Oxfam en République démocratique du Congo. Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés vers la RDC au courant du mois d'octobre par les autorités angolaises qui ont évoqué une opération contre l'immigration clandestine dans la province du Lunda Norte. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a participé ce mardi à Juba à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud. Il n'était plus revenu dans la capitale depuis sa fuite précipitée en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. Nathalie Barche.
Arrivé à Juba dans la matinée en provenance de Khartoum, Riek Machar a assisté à la cérémonie aux côtés du président Salva Kiir. Les deux rivaux ont signé un accord de paix le 12 septembre à Addis Abeba, censé mettre fin à la guerre civile et au terme duquel le chef rebelle doit retrouver son ancien poste de vice-président. Les présidents soudanais Omar el-Béchir, somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, ougandais Yoweri Museveni et la nouvelle présidente éthiopienne Saleh Work Zewde étaient présents à Juba. La cérémonie s'est déroulée au mausolée John Garang, chef de la guerre d'indépendance contre le Soudan, devant des milliers de spectateurs. L'on ignore si Riek Machar compte rester à Djouba au-delà de la cérémonie, l'un de ses porte-paroles, Lampol Gabriel, ayant fait part de ses craintes concernant sa sécurité.
Arrestation en Tanzanie d'un député de l'opposition après avoir affirmé qu'une centaine de personnes avaient été tuées lors de récents affrontements entre éleveurs et forces de l'ordre dans l'ouest du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une nouvelle caravane de migrants d'environ 2000 personnes est partie aujourd'hui du Salvador, malgré le début d'une opération aux États-Unis qui mobilise des troupes à la frontière. Le point avec Clermont et Gibourg.
Cette nouvelle caravane est séparée en deux grands groupes. Hommes et femmes marchent, certains roulent leurs poussettes, d'autres ont leurs enfants sur leurs épaules. Certains brandissent des drapeaux salvadoriens alors que des automobilistes qui passent à côté d'eux klaxonnent pour les encourager. Dimanche, 300 personnes avaient quitté San Salvador dans les mêmes conditions. La première caravane de 3500 personnes qui a quitté le Honduras mi-octobre se trouve désormais dans le sud du Mexique. Ces arrivées massives de migrants sont devenues un enjeu majeur pour les élections de mi-mandat le 6 novembre. L'armée américaine a annoncé l'envoi de plus de 5000 soldats à la frontière avec le Mexique pour bloquer l'entrée sur le territoire de ces migrants fuyant la violence et la misère dans leur pays.
Le gouvernement autrichien se retire du pacte de l'ONU sur l'immigration pour, dit-il, défendre sa souveraineté en matière d'immigration. Le gouvernement a convenu de ne pas signer le pacte des Nations Unies sur la migration et ainsi de ne pas lier l'Autriche, a indiqué dans un communiqué la coalition dirigée par le chancelier conservateur Sebastian Kurz avec le parti d'extrême droite FPÖ. La formation d'extrême droite faisait campagne pour le boycott de ce texte considéré comme le premier document international sur la gestion des migrations. Les États-Unis et la Hongrie n'ont pas signé le document non plus. La Turquie a mis en doute la volonté de l'Arabie Saoudite de coopérer sincèrement dans l'enquête sur le meurtre à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. Un haut responsable turc a affirmé que les officiels saoudiens se montraient surtout soucieux d'obtenir les preuves que nous avons contre les auteurs du meurtre. Par ailleurs, le procureur d'Istanbul a indiqué que Jamal Khashoggi a été tué par strangulation au consulat de son pays à Istanbul et son corps démembré. Les États-Unis ont appelé à la fin de la guerre au Yémen, demandant notamment à la coalition menée par l'Arabie Saoudite d'arrêter ses bombardements. Washington réclame l'ouverture de négociations de paix d'ici 30 jours, mais estime toutefois toujours que le premier pas doit être fait par les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Tensions sociales au Pakistan, des tensions donc qui font suite à la décision de la Cour suprême du pays d'acquitter en appel la chrétienne Asia Bibi. Celle-ci avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010. Cet acquittement suscite la fureur des milieux religieux qui sont immédiatement descendus dans la rue. Bagasikoura.
Elle a été acquittée de toutes les accusations, a déclaré le juge Saqib Nisar lors de l'énoncé du verdict mercredi matin, ajoutant que Mme Bibi, qui se trouve actuellement incarcérée dans une prison à Multan, dans le centre du pays, allait être libérée immédiatement. Les fondamentalistes, en revanche, se sont insurgés contre ce verdict et sont descendus par milliers dans la rue en différents endroits du pays, bloquant des routes, brûlant des pneus, criant des menaces et slogans hostiles au juge et à Asia Bibi. Ils se sont pour la plupart dispersés en fin de journée après avoir annoncé de nouvelles manifestations pour vendredi. Quelques centaines d'entre eux continuaient cependant de bloquer un échangeur autoroutier près d'Islamabad. Dès le matin, la capitale a été placée sous haute sécurité avec des barrages sur les routes, notamment à proximité des quartiers où vivent les magistrats et la communauté diplomatique. Certaines écoles ont été fermées. Malgré cette annonce, en pratique, la libération de Madame Bibi pourrait prendre plusieurs jours en raison de procédures administratives, a indiqué son avocat.
Bagassi Koura, et puis l'armée indonésienne a annoncé avoir localisé l'épave de l'avion de Lion Air qui s'est abîmé avec 189 personnes à bord. Le Boeing 737 MAX 8 de Lion Air, entré en service il y a seulement quelques mois, a disparu en mer de Java lundi. Et peu avant, l'équipage avait demandé au contrôle aérien l'autorisation de revenir à Jakarta, son point de départ. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
Le Burkina Faso lance officiellement les travaux de construction de l'autoroute de contournement nord et sud de Ouagadougou pour un montant d'environ 181 milliards de francs CFA. Longue de 125 km, cette autoroute va traverser trois régions et toucher plus de 9 communes et arrondissements. Ce projet sera exécuté par le groupe EBOMAF dans le cadre d'un partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire reçoit 3,5 milliards de francs CFA de la Corée du Sud pour le raccordement à l'eau potable dans le district d'Abidjan. Selon le ministre ivoirien de l'hydraulique, Laurent Tchagba, ce projet permettra à 10 000 ménages, soit 70 000 personnes défavorisées de la commune de Koumassi, d'être connectées au réseau d'eau publique. Chaque maison n'aura à payer que 10 000 francs CFA au lieu de 167 000 francs CFA pour se voir raccorder au réseau d'eau potable. La première phase de ce projet, qui a eu lieu entre 2014 et 2016, a permis de financer 8 810 branchements dans les communes de Yopougon, Abobo et Koumassi.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le Ghana passe à la vitesse supérieure dans la préparation de sa CAN.
La fédération a annoncé la tenue de trois gros matchs amicaux internationaux. Le premier opposera les Black Queens à la Zambie le 3 novembre avant un déplacement au Kenya 4 jours plus tard pour y affronter les Arambi Starlets. Enfin, le dernier match mettra aux prises le Ghana à l'Afrique du Sud à Accra quelques jours avant l'entame de la compétition qui va se dérouler du 17 novembre au 1er décembre prochain. Le Ghana, pays hôte, figure dans le groupe A avec l'Algérie, le Mali et le Cameroun. Le groupe B est composé du Nigeria tenant du titre, du Kenya, de la Zambie et des Bayana Bayana d'Afrique du Sud.
Toujours au Ghana, l'ex-président de la fédération a été sanctionné par la FIFA.
Et oui, Kwesi Nyantakyi a été interdit à vie de toute activité liée au football par la justice interne de la FIFA et devra s'acquitter d'une amende d'environ 440 000 euros pour des faits de corruption. L'ancien patron du foot ghanéen a dû démissionner début juin après les révélations explosives d'un documentaire d'investigation, le filmant en pleine négociation avec des investisseurs potentiels à qui il faisait miroiter de juteux contrats avec le gouvernement ghanéen en échange de cadeaux de plusieurs millions de dollars.
En Europe, Neymar encourt jusqu'à 6 ans de prison.
Oui, le footballeur brésilien, ses parents, le président du FC Barcelone, Joseph Maria Bartomeu, sont en attente de procès en Espagne pour un présumé délit de corruption lors du recrutement de Neymar par le Barça en 2013. Bartomeu, Rossell et le Barça devront en outre répondre du délit d'escroquerie, tout comme l'ancien club de Neymar au Brésil, Santos, et son ex-président, Odilio Rodriguez. Le club catalan a officiellement chiffré le transfert du prodige brésilien à 57,1 millions d'euros, répartis en 40 millions pour la famille de Neymar et 17,1 millions pour Santos, mais la justice espagnole a réévalué le transfert à au moins 83 millions d'euros.
NBA pour terminer, le réveil pour Cleveland.
Et oui, il aura fallu attendre le 7e match de l'ère post-LeBron James pour renouer avec le succès. Et c'est Atlanta qui en a fait les frais, battu 136-114 par les Cleveland Cavaliers. Dans les autres matchs, les Rockets de Houston ont confirmé leur début de saison apathique. Une victoire, 5 défaites, avec une nouvelle débâcle, cette fois-ci contre Portland 104-85. Les Philadelphia Sixers de Joel Embiid se sont inclinés 129-112, malgré les 31 points du Camerounais.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie, et on passe au dossier du jour. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce matin à Juba pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix signé le 12 septembre à Addis Abeba et destiné à mettre fin à presque 5 années de guerre civile. Le président soudanais Omar el-Béchir, la nouvelle présidente éthiopienne et d'autres délégations de haut niveau ont pris part à cette cérémonie. Au terme de cet accord, M. Machar doit retrouver son ancien poste de vice-président. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris le directeur de publication de Soudan Tribune, Mohamed Naji.
Qu'il s'agissait avant toute chose de faire une célébration nationale. Et Machar, à ce titre, il a été convié, lui et le reste des dirigeants de l'opposition, qui sont pour la majorité actuellement, ils se trouvent à Khartoum. S'agissant de Riek Machar, il faut bien que se le dise, lui, il est, après les accords de paix et tout ce qui a été convenu, il doit rester à Khartoum pour environ quelques mois, le temps que le comité de pré-transition finisse ses travaux pour préparer la période de transition. Donc, 30 mois pour l'application des accords de paix.
Donc, M. Machar ne va pas rester à Djouba après la cérémonie.
Pour l'instant, il participe uniquement, doivent rentrer à Khartoum. C'est donc d'ici quelques mois que Riek Machar va officiellement rentrer dans le sud Soudan en tant que premier vice-président. Voilà.
Riek Machar n'avait plus remis les pieds à Djouba depuis juillet 2016. Est-ce que sa présence marque un bon signe de paix?
Sa présence en soi-même était très significative et très attendue par beaucoup, parce que, comme vous le savez, la communauté internationale, les pays donateurs de la Troïka, et tout le monde a exigé du président Salva Kiir et de Riek Machar d'apparaître ensemble, de faire des signes d'apaisement, d'appel à l'unité nationale, à la tolérance, au pardon. Et donc, à ce titre-là, et lui, il devait y être là aujourd'hui.
Est-ce que faire travailler ensemble M. Kiir et Machar ne sera pas une mince affaire?
Ils n'ont pas le choix. Ils savent que c'est vrai, les malheurs de ce pays, pour beaucoup, ils sont responsables. D'ailleurs, tous les deux, ils ont reconnu leur tort et ils ont demandé pardon. Ils ont juré, je dirais, de faire de tout leur possible pour que ça réussisse cette fois et que permettre aux gens de vivre en paix, parce qu'il faut savoir que les Sud-Soudanais n'ont pas connu, depuis très longtemps, ils n'ont pas connu la vraie paix, ils n'ont pas su vivre comme tout le monde.
La coopération entre Kiir et Machar a toujours abouti au chaos et au conflit. Est-ce que tout ce que vous venez de citer là, c'est suffisant pour éviter un autre conflit?
Il faut en tout cas maintenir la pression régionale et internationale sur les parties de l'accord de paix qu'ils viennent de signer. L'application de cet accord a besoin de beaucoup d'argent. Et la communauté internationale, il a clairement dit qu'il ne va pas soutenir un accord si les parties soudanaises ne se montrent pas à la hauteur des engagements pris.
C'était Mohamed Naji, directeur de publication de Soudan Tribune.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elles ont lieu mardi prochain, même si le vote anticipé a déjà démarré. Elles concernent les deux chambres du Congrès américain et, comme d'habitude, se tiennent à la mi-mandat de chaque président du pays. Que faut-il savoir de ces élections? Quels en sont les enjeux? Que vont-elles signifier pour le président Donald Trump et pour son agenda, dont sa politique étrangère? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le Burkina Faso commémore aujourd'hui le 4e anniversaire de l'insurrection populaire ayant emporté le régime du président Compaoré. À cette occasion, le président du Faso a déposé ce matin une gerbe de fleurs au monument aux héros nationaux pour un hommage aux martyrs rendus en rang dispersé. Des victimes et des ayants droit continuent en effet d'attendre justice et réparation. Des précisions à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Ce sont plusieurs associations de la société civile et des mouvements des droits de l'homme qui ont donné très tôt ce matin le ton de cette commémoration à travers une marche meeting de contestation. La coalition a boudé la commémoration officielle et lui a préféré la place de la nation pour ne pas cautionner l'action du gouvernement, explique Elie Tarpaga. Il est le responsable de la coordination des comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire de la ville de Ouagadougou.
C'est pas la bonne manière de se rappeler ceux qui sont tombés pour qu'il y ait la liberté, pour qu'il y ait la démocratie au Burkina. La bonne manière, c'est effectivement répondre aux préoccupations de ces gens-là en matière de justice, en matière de tout ce que le peuple burkinabé a revendiqué pendant l'insurrection populaire. Les commémorations folkloriques, là, nous ne sommes pas dedans.
Proche également de ne pas s'associer au cérémonial officiel, les familles des martyrs qui ont finalement pris part à l'issue d'ultime tractation au cours de la nuit dernière, précise Paula Boupeka Victor, président de l'Union des familles des martyrs.
Au début, les choses n'avaient pas évolué, donc c'est pour cela que nous avons adressé une lettre au gouvernement pour dire qu'on n'allait pas participer. Mais nous, si on prend le 29 octobre, nous avons eu des réunions dont on s'est mis d'accord. Le président Roch Marc Christian Kabore lui-même il prend tout en charge et il a promis de régler tous les problèmes avant la fin de l'année.
C'est ce même espoir qui a prévalu à la présence des représentants des blessés, soutiendra Man Ouedraogo, président de l'association des blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué.
Nous sommes en discussion avec le gouvernement pour les différents soins des blessés et que nous puissions avoir des mesures d'accompagnement pour ceux qui ont perdu leur emploi depuis les élections et qui n'en ont plus jamais eu. Présentement, il y a 532 blessés du côté insurrectionnel et du coup d'État manqué.
Après avoir déposé ce matin une gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs, le président du Faso, qui promet respecter les engagements pris, a désapprouvé le désintérêt manifesté par une partie des Burkinabés. Il faut savoir dépasser les divergences lorsque les questions touchent à l'intérêt national, indique Roch Kabore.
Les dates historiques de notre pays, c'est très important. La cohésion, c'est très important, quels que soient les points de vue divergents que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance vis-à-vis de ces héros. C'est un jour également d'introspection. Il est évident quand on gère un pays que tout ne peut pas se réaliser en une fois, comme sur la baguette magique. Les priorités des Burkinabés sont nombreuses et dans tous les domaines. Et vous savez très bien que si nous voulons réussir véritablement à faire en sorte que nous avancions, c'est si nous travaillons ensemble en ayant conscience que chacun, dans son poste de responsabilité, a quelque chose à porter au pays.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Il y a quelques jours, des milliers de manifestants se mobilisaient à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes de la RDC pour protester contre les machines à voter prévues pour le scrutin du 23 décembre. La machine en question a été fabriquée par la société sud-coréenne Meru Systems. Notre correspondant à Séoul a voulu en savoir plus et c'est un récit de Salwa Jafari.
Machine à voter, machine à tricher, le slogan résonne chez beaucoup de Congolais. Ils sont nombreux à douter de l'efficacité de la nouvelle technologie qui doit permettre aux électeurs de choisir leur candidat et d'imprimer leur bulletin dans les bureaux de vote au scrutin présidentiel, législatif et provinciaux du 23 décembre prochain.
Pour ce moment, on en perd derrière. Mais quelquefois, ne jamais voler avec cette machine.
Et pourtant, la commission électorale a fait de son mieux pour convaincre. Principal argument, les machines accéléreraient le dépouillement du vote et le rendraient plus transparent.
Après les explications et l'assimilation des votes et la réponse aux différentes questions, on sent que la compréhension et l'acceptation de la machine à voter ne posent plus de problème.
Les partis d'opposition et les évêques catholiques ont tout de même demandé que des experts internationaux inspectent les machines, craignant que ces appareils ne permettent une fraude. Meru Systems, situé juste au sud de la ville de Séoul, à Pangyo, a décliné la demande d'interview de VOA. mais a répondu à la controverse avec une déclaration aux médias locaux. L'inquiétude suscitée par les machines à voter découle de la non-compréhension de leur fonctionnement. Même avec l'introduction d'un système de vote électronique et de dépouillement du vote, un système de vote en papier est toujours en place. Le communiqué ajoute que cela renforcerait la fiabilité de l'élection en enregistrant les votes trois fois, sur un ordinateur à écran tactile, sur le serveur central et sur papier. Cependant, Seung-Ju Kim, professeur de sécurité de l'informatique à l'université de Corée, a confié à VOA que les machines de vote électronique, comme tout autre système informatique, pouvaient être compromises.
Même si vous sécurisez les données sur l'écran tactile, en serveur et en bulletin de vote, les entreprises ne peuvent pas contrôler le déroulement des élections et ne doivent donc pas promettre l'intégrité du vote.
Malgré tout, les responsables des élections sont convaincus qu'ils sont prêts à procéder aux élections de décembre, ce que beaucoup considèrent comme une étape cruciale pour mettre fin à l'instabilité politique dans un pays qui est sur le point de changer de leader après un règne de plus de 17 ans de Joseph Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
À moins d'une semaine des élections de mi-mandat ici aux États-Unis, les Américains sont alarmés par le massacre survenu dans une synagogue de Pennsylvanie, mais aussi par l'interception de plusieurs colis piégés envoyés à des leaders démocrates. Le scrutin du 6 novembre pourrait avoir un profond impact sur les deux dernières années du mandat du président Donald Trump. Les précisions de Lionel Gaïma.
À Pittsburgh, en Pennsylvanie, c'est le recueillement en mémoire de victimes du massacre de la synagogue Tree of Life, un massacre dénoncé par le président Donald Trump.
We condemn the historic evil.
Nous condamnons le mal historique de l'antisémitisme et toute autre forme de mal, et malheureusement, le mal vient sous plusieurs formes. Et nous devons nous unir comme un seul peuple américain.
And we come together as one.
Pour l'analyste John Haddad de la Brookings Institutions, un cercle de réflexion de Washington, la fusillade de Pittsburgh et l'inculpation de l'homme accusé d'avoir envoyé des colis piégés ont accru la tension dans la dernière ligne droite de la campagne électorale.
Le pays souffre du fait de cette série de circonstances qui, malheureusement, surviennent trop souvent aux États-Unis. Des actes de violence et d'agression d'Américains contre leurs propres compatriotes.
Parmi les voix appelant au calme, c'est de l'ancien vice-président Joe Biden.
Je sais que parfois la colère, la haine, la méchanceté menacent de nous submerger. Et il revient à nos leaders de donner le ton, de baisser le ton et de redonner une certaine dignité à notre dialogue national.
Pour certains démocrates, les attaques partisanes du président Trump ont contribué à créer une atmosphère politique tendue. Un avis que rejette le porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.
Le premier réflexe des médias a été d'accuser le président Trump et de lui imputer la responsabilité de ses actes ridicules. C'est scandaleux que cela soit leur première réaction.
Pour sa part, le président Trump se dit déterminé à mener jusqu'au jour du scrutin une vigoureuse campagne pour les questions importantes pour ses partisans, comme l'immigration.
Le Parti démocrate encourage ouvertement des millions d'étrangers en situation illégale à violer nos lois et nos frontières et à mener notre pays à la faillite, ce qui est en train d'avoir lieu.
Les démocrates ont, de leur côté, concentré leur message électoral sur l'assurance maladie, mais le scrutin sera avant tout un référendum sur la présidence de Trump, souligne Jim Kessler, vice-président du cercle de réflexion Third Way, basé ici à Washington. On s'attend à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, une perspective périlleuse pour le président Trump, dans la mesure où ces démocrates pourraient alors bloquer toutes ses initiatives, ouvrir de nombreuses enquêtes et du coup compliquer ses chances de réélection en 2020.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnot, à la console Sutrak Franklin et à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.